Chapitre troisième. Venez donc souper ce soir chez nous, fit le capitaine. Notre intérieur est des plus paisibles, mais un jeune homme de votre caractère ne saurait craindre de passer la soirée dans une famille tranquille. Anne sentit son cœur battre à se rompre. Il accepta l'invitation avec les façons modestes qui lui étaient propres, et bientôt on le vit s'acheminer vers le numéro 34. Quelle chance aujourd'hui! Il y a quelques heures à peine, il apercevait sa bien-aimée pour la première fois, et déjà il se voyait invité en favori du père. Plus il approchait du numéro 34, plus l'image de Mlle Schrappe se peignait à ses yeux en traits séduisants, les cheveux blonds frisés, les yeux bleus si espiègles, la taille élancée. Le cœur de Hans battait si fort qu'il pouvait à peine parler en montant l'escalier en compagnie du papa, et il dut se cramponner à la balustrade. Au salon, personne. Le capitaine s'éloigna pour appeler sa fille et Hans l'entendit crier « Betty !» Betty, quel gracieux petit nom, qu'il convenait bien à l'objet aimé, quelle joie ce serait en rentrant d'aller à la cuisine et de dire « Betty, le dîner est-il prêt ?» En cet instant, le capitaine rentrait avec sa fille. Elle se dirigea sans embarras vers Hans, lui tendit la main et lui souhaita la bienvenue. « Excusez-moi, fit-elle, de vous quitter si vite, j'ai une omelette sur le feu. » Et c'est une affaire d'importance. » Là-dessus, elle disparut, et le capitaine également, pour mettre de l'ordre dans sa toilette. L'entrevue n'avait pas duré 5 secondes, et pourtant Hans se figura tomber de marche en marche dans un abîme insondable. Il se cramponnait à un fauteuil, n'entendant, ne voyant plus rien, et murmurant machinalement « Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Non, ce n'était pas elle. » La dame qu'il venait d'apercevoir et qui devait porter le nom de Schrappe n'avait pas les cheveux blonds frisés. Au contraire, sa chevelure était noire et unie. Elle n'avait pas les yeux bleus et espiègles, mais les yeux gris et sérieux. Bref, tout l'opposé de l'objet aimé. Remis du premier étourdissement, Hans se sentit pris d'une rage effroyable contre le capitaine, contre Mlle Schrappe, contre l'oncle Frédéric, Wellington, l'univers entier. Il voulait briser les glaces et les meubles, puis sauter par la fenêtre, ou bien, plus simplement, s'esquiver par l'escalier. Cette rage ne tarda heureusement pas à faire place à une profonde mélancolie. Hans connaissait dès cet instant la douleur indicible d'être déçu dans ses premières amours, et s'étant examiné dans la glace, il secoua la tête d'un air de compassion. Le capitaine rentra sur ses entrefaites et se lança dans la politique. Hans avait de la peine à lui donner la réplique, tant son intérêt pour le vétéran avait disparu. Et puis il se rappelait que, chemin faisant, ce dernier lui avait promis, pour le dessert, la relation complète des manœuvres de Scanny. « Le souper est servi, » dit Mlle Betty en ouvrant la porte de la salle à manger. Le cousin Hans ne put s'empêcher de faire honneur au repas, car il mourait de faim, mais il ne levait guère les yeux de son assiette et se renfermait dans le silence. Ce furent donc le capitaine et sa fille qui firent les frais de la conversation. « Dommage que tu n'aies pas invité Mlle Beck, qui va partir demain. Vous auriez joué à 4 mains en l'honneur de notre hôte. Je l'ai priée de rester lorsqu'elle est venue vers midi, mais elle avait déjà accepté une autre invitation. » Le cousin se dressa les oreilles. Serait-il question de la dame qui l'avait suivie ?« Je t'ai raconté qu'elle a pris congé de moi sur les remparts, » continua le capitaine. « Pauvre fille, c'est grand dommage. » « Plus de doute possible. » « Pardon, est-il question d'une jeune dame aux cheveux frisés et aux yeux bleus ?» interrogea le cousin Hans. « Mais oui, » répondit le capitaine. « Connaissez-vous Mlle Beck ?»« Non, monsieur. Je pensais seulement que ce pouvait être une dame que j'ai rencontrée vers midi sur les remparts. C'était elle. Une jolie fille, n'est-ce pas ?»« Superbe. A-t-elle quelques chagrins ? Il m'a semblé que... »« Elle a été fiancée pendant 9 semaines, et voilà que son fiancé a rompu. C'est pourquoi elle s'absente pour quelque temps. » Elle va chez des parents qui habitent au bord de la mer. Elle avait donc été fiancée 9 semaines seulement, il est vrai, mais enfin c'était un hic. Évidemment, du reste, Mlle Beck n'avait pas éprouvé pour son fiancé un amour véritable. Le cousin ne pouvait en douter. Il reprit donc « Si c'est la dame que j'ai vue aujourd'hui, elle ne me paraît point trop mariée de son aventure. »« C'est précisément ce que je lui reproche, » fit Mlle Betty. « Pourquoi donc ? Vaudrait-il mieux qu'elle se laissât mourir de chagrin ? Non, certes, mais à mon sens, elle pourrait manifester une indignation plus forte. Je pense, au contraire, qu'elle a eu raison de ne pas se faire de mauvais sang. La force de la femme, c'est le pardon. Et moi, je prétends que si le monde jugeait plus sévèrement les nombreuses ruptures de fiançailles, la jeunesse serait un peu plus prudente à cet endroit. Je suis de l'avis tout opposé. Lorsqu'un fiancé s'aperçoit que ce qu'il a pris pour de l'amour n'est pas le véritable amour, il est tenu de rompre au plus tôt. Et quant à la fiancée, son devoir est de parler aussi peu que possible de cette affaire, de manière qu'elle tombe bientôt dans l'oubli. En dépit de toutes ces belles raisons, je ne puis que désapprouver ces fiançailles à l'essai. Le capitaine s'étant au même instant levé de table, Hans ne put répliquer. Mademoiselle Betty avait un je ne sais quoi qui donnait sur les nerfs du cousin Hans. Elle était belle, très belle même. Évidemment, elle prenait grand soin du ménage, et la sollicitude dont elle entourait son vieux père avait quelque chose de touchant. Néanmoins, Hans se disait « Pauvre fille, elle coiffera Sainte Catherine, car elle était absolument dépourvue de cette timidité qui nous charme tant chez les jeunes filles. Elle parlait avec un aplomb presque blessant. Jamais elle n'usait de ces phrases ravissantes telles que « Je ne sais si vous me comprenez. J'ai peine à m'exprimer clairement. Je ne sais comment dire cela, mais je le sens. » De plus, Hans la soupçonnait d'être un peu babbleux. Or, chacun donnera raison à notre héros sur ce point. La femme ne doit avoir d'autres connaissances que celles que son mari désire qu'elle ait. Tout autre savoir est une dot de valeur douteuse. Le cousin Hans était d'une humeur effroyable. 8 heures venaient de sonner, et il croyait devoir ne pas prendre congé avant 9h30. Le capitaine s'apprêtait à commencer le récit des manœuvres. Pas moyen d'échapper, et Hans prit place à côté de lui, tandis que Mademoiselle Betty s'asseyait en face avec une broderie et un livre, qui se trouva être un de ces romans allemands dont, au dire de Hans, la lecture ne convient qu'à des hommes d'âge mûr. Il ne put s'empêcher d'en faire la remarque, ce qui amena la rougeur sur les joues de Mademoiselle Betty. Hans sentit son impolitesse, mais qu'y faire? Dans sa situation, on blesserait son meilleur ami. Pour comble d'infortune, le capitaine se mit à faire avancer le corbet à la faveur de l'obscurité. Hans regardait d'un œil distrait les allumettes, les tabatières et les canifs que son interlocuteur faisait mouvoir sur la table. De temps à autre, il opinait du bonnet, tout en songeant à Mademoiselle Beck, qu'il ne reverrait peut-être jamais. Tout à coup, il fut tiré de sa rêverie par le capitaine qui lui frappait sur l'épaule. « C'est ce point qu'il s'agissait d'occuper. Qu'en pensez-vous ? » Hans, se rappelant le conseil de l'oncle Frédéric, se hâta de répondre « Naturellement, la seule chose à faire, la clé de la position. » La figure du capitaine se rembrunit, mais remarquant la mine ahurie de Hans, il pardonna cette hérésie et dit en souriant « Non, mon cher, vous vous trompez lourdement, mais c'est une erreur pardonnable, car vous la partagez avec nos meilleures autorités. Je vais vous montrer la clé de la position. » Et le capitaine de se lancer dans une dissertation interminable sur la position qu'il avait l'ordre d'occuper. Cette position était intenable, tandis que la manœuvre qu'il avait entreprise de sa propre initiative eût mis les adversaires dans le plus violent embarras et retardé de plusieurs heures la marche du corps. Quelle que fût la prostration de Hans, il ne pouvait s'empêcher d'admirer la sagesse des supérieurs hiérarchiques du capitaine. En effet, si la manœuvre du capitaine était un trait de génie digne de l'ordre de l'épée, d'autre part, il était évident que dans une armée comme la nôtre, on ne saurait garder un officier qui s'imagine que les manœuvres ont pour but d'arrêter ou d'embarrasser quelqu'un. Il aurait dû savoir que leur but unique est de faire arriver, à l'heure fixée d'avance, les deux armées à l'endroit où le déjeuner est servi. La pendule sonna 9 heures. Mais le cousin Hans s'était mis en tête de rester jusqu'à 9h30. Jamais le temps ne lui sembla plus long. Le capitaine s'endormait et Mademoiselle Betty ne répondait que par monosyllabes. Tout le poids de la conversation retombait donc sur ce pauvre Hans, harassé, furieux et qui plus est, amoureux. Enfin, quelques minutes avant l'heure fatale, Hans se leva, prétextant son habitude de se coucher de bonne heure, afin de se remettre au travail de grand matin. « Comment ? » fit le capitaine. « Vous appelez cela de bonne heure ? Moi, je me couche toujours à 9 heures. » Bêtise sur bêtise. Hans, ayant fait ses adieux, descendit l'escalier en toute hâte, éclairé par le capitaine qui lui disait « Bonsoir, faites-nous bientôt l'honneur de revenir », tandis que Hans jurait de ne plus jamais franchir le seuil de la maison. En rentrant, le capitaine trouva sa fille occupée à ouvrir les fenêtres. « Pourquoi cela ? » fit-il. « Je renouvelle l'air vicié par sa présence. » « Mais Betty, c'est un peu trop méchant ce que tu dis là. Je concède néanmoins que les jeunes messieurs ne gagnent guère à être connus. Je ne comprends pas la jeunesse de nos jours. » Sur quoi le capitaine regagna sa chambre, non sans avoir dit, suivant sa coutume invariable, « Betty, ne reste pas trop longtemps debout. » Demeurée seule, Betty, ayant éteint les lumières, s'assit auprès de la fenêtre. Entre deux maisons, Elle pouvait voir briller une éclaircie du fjord. Ce n'était pas grand-chose, mais toujours un fragment de la route qui conduit au midi et aux contrées lointaines. Et ses vœux, ses aspirations volèrent au loin, suivant la route où main désir s'est fatigué les ailes à voyager, au loin, vers le midi où l'horizon est étendu, où le cœur s'élargit, où les pensées prennent un nouvel essor. Betty soupira en contemplant le fjord qui reluisait entre les deux maisons. Elle ne songea point au cousin Hans, au contraire de notre héros qui, pendant ce temps, arpentait les rues désertes. « Jamais je ne vis de jeune fille qui ait moins répondu à mes goûts, » se disait-il. « J'étais fort malhonnête avec elle, c'est vrai. Mais comment trouver aimable un être envers qui on a manqué de courtoisie? Évidemment, elle ne se mariera jamais. » Puis les pensées de Hans se reportèrent vers sa bien-aimée, qui allait s'éloigner pour longtemps, et il éprouva le besoin d'épancher les amertumes de son cœur dans le sein d'un ami. Mais où le trouver? Ah, l'oncle Frédéric remplira le rôle de confident mieux que personne. Il est chez tante Marie, et doit par conséquent passer par ici en rentrant. Attendons-nous sur le banc. Il fallait qu'on se fût royalement amusé chez tante Marie, pour que l'oncle en question eût pu y tenir jusqu'après 10 heures. Enfin, Hans vit poindre quelque chose de blanc au bout de la rue. C'était le gilet de l'oncle Frédéric. « Bonsoir, » fit-il en se levant. « Ah, c'est toi, » répondit l'oncle après être revenu de sa surprise. « Qui guettes-tu donc ici? Je t'attendais. As-tu quelque contrariété? Es-tu malade? Ne m'interroge pas, » répondit Hans d'une voix caverneuse. À tout autre moment, pareille réponse eût provoqué chez l'oncle Frédéric un déluge de questions. Mais ce soir-là, il était si préoccupé de ses propres aventures qu'il renonça à pénétrer celles de son neveu. « C'est très bête de ta part, » fit-il, « de ne pas avoir voulu m'accompagner chez tante Marie. Charmante soirée, comme faite pour toi. Au fond, il s'agissait de prendre joyeusement congé d'une jeune dame qui part demain. » Un soupçon terrible traversa l'esprit du cousin Hans. « Quel est son nom ? » s'écria-t-il en pinçant le bras de son oncle. « Aïe ! Mademoiselle Beck !» Hans retomba sans force sur son banc, puis se redressant subitement, il jeta loin de lui un objet qu'il venait de tirer de sa poche. « Mais qu'as-tu donc? Qu'est-ce qui te prend ?» fit l'oncle. « C'est ce maudit Blücher. Ne t'avais-je pas averti de te méfier de Blücher ?» Sur quoi l'oncle Frédéric partit d'un immense éclat de rire qu'on entendit encore lorsqu'il eut dépassé le coin de la rue. C'est ainsi que se termine la bataille de Waterloo d'Alexander Lange Kielland.